Donc ce soir, on va parler des croisades. Alors voilà un point chaud, s'il en est, de l'histoire de l'Église et de l'histoire tout court. C'est bien un sujet passionnel que celui-là. Et depuis longtemps d'ailleurs. Alors les croisades, pourtant, qui ont une très mauvaise réputation aujourd'hui, ne l'ont pas toujours eu, cette réputation. Par exemple, au XVIIe siècle, elles apparaissaient comme la manifestation d'une glorieuse tradition militaire. De laquelle on a pu parfois s'inspirer pour entreprendre telle ou telle expédition, comme celle qu'avait organisée Louis XIV, qui avait envoyé des troupes pour défendre la Crète, assiégée par les Turcs en 1669. Donc à l'occasion, on avait ressuscité l'idéal de la croisade. Au XVIIIe siècle, le vent tourne, et les philosophes autoproclamés des Lumières dénonce le fanatisme et l'intolérance de l'Église à l'occasion de ces mêmes croisades. Et il y a des pages tout à fait affreuses sur ce sujet dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations de Voltaire en 1756. Au début du XIXe siècle, le vent tourne à nouveau et les croisades deviennent une source d'inspiration pour le mouvement romantique en littérature et en histoire dans le cadre plus général de l'inspiration, de l'intérêt suscité par le Moyen-Âge chez les romantiques. Au milieu du XIXe siècle, on voit en elle l'annonce de l'expansion européenne au-delà des mers, c'est-à-dire de l'élan colonial au fond, puisqu'il y a un nouvel élan colonial au XIXe siècle. C'est à ce moment-là que la France se dote d'un second empire colonial. L'idéal de la croisade au XXe siècle, il a même été récupéré, réinterprété, instrumentalisé par les nazis dans le cadre de leur célèbre croisade contre le bolchevisme. Et puis, les croisades, on en parle toujours, ne serait-ce que parce qu'elles véhiculent un idéal chevaleresque qui a été développé, par exemple, dans le scoutisme. Je pense à des livres de Michel Menu, qui était un personnage très important de l'histoire du scoutisme en France, qui a fait un travail sur les mythes de la jeunesse et qui a montré que cet idéal chevaleresque avait été essentiel dans l'essor du scoutisme. Et puis, dans l'iconographie, il y a les dessins de Pierre Joubert qui représentent souvent des chevaliers dont on doit s'inspirer pour l'idéal chevaleresque contemporain. Alors aujourd'hui, aussi bien du point de vue occidental que du point de vue de la conscience islamique, parce que c'est là qu'est l'interlocuteur aussi, les croisades ont mauvaise presse. Alors du point de vue occidental, le politiquement correct en plus met de l'huile sur le feu. Et dans le monde islamique, on y voit une agression à l'origine d'un traumatisme profond, une forme d'islamophobie, pour reprendre un terme du politiquement correct actuel. D'ailleurs, l'État islamique, dans sa propagande, traite les Occidentaux de croisés, ce qui a dû en surprendre plus d'un. Il était un croisé qui s'ignorait sans doute. Voilà, donc il n'y a pas d'époque où le sujet n'ait pas été passionnel, clivant, polémique. Et évidemment, comme d'habitude, quand il y a eu des périodes de développement de l'anticléricalisme qu'on a instrumentalisé l'histoire pour lui faire dire ce qu'elle ne voulait pas forcément vraiment dire. Donc, sur l'Inquisition, sur les croisades, sur Galilée, sur plein d'autres sujets, sous le Second Empire, sous la Troisième République, on a développé toute une propagande dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et nous croyons que l'histoire est telle qu'elle a été décrite par ces gens-là ou par Voltaire un peu avant. L'histoire est sans doute un petit peu moins simpliste et peut-être un petit peu plus compliquée. Et donc, mon propos, évidemment en toile de fond, il y a une réflexion sur le statut de la violence de la part des chrétiens. Mais mon propos en histoire, ça va être tout simplement de poser la question suivante. Que furent les croisades? Parce que derrière le terme croisade, si on interroge les gens, on va avoir une présentation qui ne cadre pas forcément avec la réalité historique de ce phénomène. Et donc, je vais suivre un plan très très compliqué. Dans une première partie, je vais m'intéresser aux causes des croisades, puis dans une deuxième partie, aux aspects, et dans une troisième partie, enfin, aux conséquences, voilà. Et en conclusion, je ferai un petit parcours sur ce qui est en jeu derrière cette question des croisades. Alors, quelles sont les causes des croisades? Ça nous aidera à définir ce que c'est, et c'est peut-être le plus important en fait. Traditionnellement, en histoire, on dit qu'il y a 8 croisades qui s'inscrivent d'abord dans le cadre des rapports millénaires entre Orient et Occident, entre deux mondes, avec des mouvements d'expansion opposés et alternatifs, avec des flux et des reflux. Alors si on se met dans le temps long, on peut considérer par exemple que les guerres médiques, c'est une poussée de l'Empire perse vers l'Europe qui est stoppée, on ne sait pas trop comment, par les cités grecques et en particulier par Athènes. Et puis après, il y a un mouvement dans l'autre sens, de l'ouest vers l'est, avec Alexandre le Grand, dont vous avez sans doute vu l'épopée incroyable jusqu'aux rives de l'Indus. Puis il y a une autre vague avec l'Empire romain qui va constituer ce qu'ils vont appeler la Palestine en province romaine. Et puis encore au début du 7e siècle, la région de Palestine, de Terre Sainte, est l'objet de conflits et de tensions entre différentes puissances. En 614 en particulier, Jérusalem a été prise par les Perses, elle a été prise aux Byzantins, qui se sont emparés à cette occasion de reliques de la vraie croix. Les Byzantins ont riposté. Et l'empereur Héraclius, qui a régné entre 610 et 641, a contre-attaqué face à l'Empire perse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet épisode, c'est une sorte d'anticipation de ce que seront les croisades, tellement l'élément religieux chrétien y joue un rôle clé. Et d'ailleurs, Héraclius, sera une figure très populaire chez les premiers croisés. Voilà, donc pour inscrire tout ça dans des mouvements plus vastes encore. Alors, maintenant, on va essayer de voir quelle est la situation en Orient. C'est indispensable pour comprendre pourquoi il y a les croisades. Et puis ensuite, quelle est la situation en Occident? C'est tout aussi indispensable. Ça nous permettra de resituer l'appel du pape Urbain II à la croisade. Alors, en Orient. En Orient, vous savez qu'il y a eu, à partir du 7e siècle, l'expansion musulmane, d'autant plus facile à réaliser que l'Empire byzantin s'était complètement épuisé face aux Perses, que je viens d'évoquer, et donc il n'a pas été à même de faire face à cette expansion musulmane, qui s'est donc déroulée avec une ampleur et une rapidité inouïes. Et donc, les musulmans ont pris Jérusalem en 638 et n'ont connu des coups d'arrêt que beaucoup plus tard, en 717, en échouant à assiéger Constantinople. Et en 732, c'est la fameuse bataille de Poitiers, la victoire des Francs de Charles Martel, qui ont mis un coup d'arrêt à l'expansion musulmane en Occident. Et les musulmans sont repartis de l'autre côté des Pyrénées. Et donc, dans la mentalité profonde de l'Occident, d'ailleurs, cette fameuse bataille de Poitiers est peut-être l'origine lointaine des croisades, une sorte de réaction lentement mûrie à l'humiliation ressentie depuis 4 siècles devant la conquête musulmane de la moitié du bassin méditerranéen. Peut-être certains historiens, je viens d'en citer un, ont pu le prétendre. Toujours est-il qu'au Xe siècle, les relations entre Byzantins et musulmans ne sont pas forcément cordiales, comme en témoigne cette lettre de Nicéphore Phocas à Bagdad. Alors, je vais vous lire des textes aujourd'hui. Antioche n'est pas éloignée de moi, en un instant je l'atteindrai avec mes myriades triomphantes. Vous, habitants des déserts des sables, prenez garde à vous. Retournez à Sanaa, votre patrie. Dans peu de temps, je prendrai l'Égypte à la pointe de mon épée et ses trésors seront mon butin. Délogez, habitants de Bagdad, et reculez. Votre royaume est faible et tombe en ruine. Repartez, fils de Bélial, au Hédjaz, et quittez la terre des Grecs. Je marcherai sur la Mecque et j'amènerai avec moi une foule de guerriers semblables à une nuit obscure. Je m'emparerai de cette ville pour y installer le trône du Très-Haut, puis je me tournerai vers Jérusalem, je conquerrai l'Orient et l'Occident, et partout, je planterai le signe de la croix. » Autrement dit, on savait s'écrire dans les relations diplomatiques de l'époque, avec, vous voyez, toute la rhétorique étonnante, on ne rencontre plus beaucoup aujourd'hui. Voilà. Bon, toujours est-il qu'au Xe siècle, on a bien les Byzantins face aux musulmans. Et justement, dans le monde musulman, ça va bouger au XIe siècle, et plus immédiatement, c'est ça qui va déstabiliser les choses. En 1009, des pèlerins sont emprisonnés à Jérusalem par le calife Hakim qui détruit la basilique du Saint-Sépulcre, rien de moins. C'est le début d'une période de persécution, suivie d'une autre période de négociation, qui va permettre aux empereurs byzantins de reconstruire la basilique. Mais on voit bien qu'il y a des tensions graves comme elles ne l'ont jamais été. On a rasé le Saint-Sépulcre. Et donc les Byzantins, une fois que ça s'est un petit peu calmé, vont relancer le pèlerinage qui existe depuis des siècles, mais dans de nouvelles conditions. À la route maritime, qui était seule utilisée au cours du Haut Moyen-Âge, on préfère désormais utiliser, on préfère la route terrestre depuis l'Occident, par la vallée du Danube, Constantinople, l'Asie mineure et Antioche. Pourquoi est-ce qu'on prend une route terrestre? Parce que le roi de Hongrie, Étienne Ier, s'est converti en 997, et évidemment désormais passé par son royaume est une route beaucoup plus sûre que la route maritime, d'autant plus qu'en Méditerranée, on se bat, il y a eu des invasions normandes en Italie du Sud, et puis les ports de Palestine ont été pris par les musulmans, il y a des tempêtes, il y a des pirates. Si on a une route terrestre un peu plus sûre, c'est mieux. Et alors, les pèlerinages à cette époque vont aussi prendre un caractère de plus en plus collectif. On se regroupe pour voyager et être ainsi plus à même de se défendre au cas où. Donc voilà, on a des tensions entre byzantins et chrétiens, et musulmans. Les musulmans ont rasé le Saint-Sépulcre, on l'a reconstruit. Depuis l'Occident, les pèlerins viennent à partir du XIe siècle beaucoup plus par la voie terrestre. Et puis, il y a la rupture entre latin et grec à l'occasion du schisme de 1054, ce qui ne va pas arranger les choses. Mais les pèlerinages continuent quand même. Par exemple, en 1065-66, une expédition rassemble entre 7000 et 12000 personnes et va réussir à forcer le passage contre les musulmans en livrant bataille. Eh bien, ce pèlerinage armé, on a toujours considéré que c'était une pré-croisade. C'est-à-dire un grand pèlerinage qui n'hésite pas à livrer bataille en cas de nécessité. Donc ça va nous faire comprendre que dans l'idéal de la croisade, il y a d'abord un idéal de pèlerin, en fait. À la fin du XIe siècle, l'expansionnisme musulman reprend au Proche-Orient, et c'est surtout cette fois-ci le fait de nouveaux venus, non plus les Arabes, mais les Turcs. Les Turcs seldjoukides, qui ont vaincu sévèrement les Byzantins en 1071 à Manzikert, et donc une défaite historique pour les Byzantins, vraiment. Et puis, entre 1070 et 1089, les Turcs occupent même Jérusalem à nouveau. Bon, pour eux, c'est la première fois. Pour les musulmans, c'est une répétition. Et donc, en 1071, ils ont battu les Byzantins, ils ont pris la quasi-totalité de l'Asie mineure à cette occasion. En 1081, il s'installe à Nicée, tout près de Constantinople. Et puis, l'Empire byzantin est en plus secoué par des révoltes intérieures. La conséquence de tout cela, c'est que la route terrestre de Jérusalem est complètement coupée. Les pèlerins occidentaux qui se rendent au lieu saint de Palestine courent les plus grands dangers en traversant l'Asie mineure en particulier, puisque désormais, c'est contrôlé par les Turcs. Alors, l'Empire byzantin est dans une situation très critique. Et donc les empereurs lancent des appels à l'aide en direction de l'Occident par deux fois, en 1074 et en 1095. Ils appellent en espérant qu'on va leur envoyer des mercenaires. Et ils vont voir arriver une croisade orientée vers Jérusalem. Donc il y a une certaine équivoque qui va s'installer entre les croisés latins et les autorités byzantines. En tout cas, Un des premiers éléments déclencheurs du phénomène de la croisade, c'est l'invasion des Turcs seldjoukides et l'appel au secours des Byzantins. Voilà deux éléments importants du côté de l'Orient. Et du côté de l'Occident, il faut considérer la situation dans cette partie du monde-là également, parce que l'Occident va réagir, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi. L'Occident, à partir du XIe siècle, connaît une période fort florissante de croissance démographique et économique, hein, du XIe au XIIIe siècle. Il y a des contacts avec l'Orient, bien sûr, hein, les hommes ont toujours fait du commerce, en particulier grâce aux flottes des villes italiennes commerçantes que sont Gênes, Pise ou Venise. C'est aussi une période de renouveau religieux en Occident, avec la réforme grégorienne, à l'occasion de laquelle l'Église s'affranchit de la tutelle des laïcs. Hein. Et puis, c'est une époque de promotion de la sainteté, sainteté monastique, avec, je ne sais pas moi, Cluny, Cîteaux, par exemple, ou les Chartreux, mais aussi de la sainteté laïque. Hein, là, tout le monde connaît le modèle de Saint-Henri et Sainte-Cunégonde, par exemple. Et puis, c'est une période, sans l'idéaliser, sans tomber dans l'image d'Épinal, qui est très marquée par la dévotion aux reliques, par les pèlerinages. Et parmi ces reliques, il en est d'un signe, vraiment, les reliques de la Passion, les tombeaux des apôtres, voilà. Et donc, les pèlerinages, puisque c'est des pèlerinages dont je veux parler, connaissent une forte recrudescence. Alors, bien sûr, il y en a toujours eu, il y en a déjà dans le judaïsme, hein, à commencer par le pèlerinage à Jérusalem. Mais dans le christianisme aussi, les pèlerinages sont des phénomènes anciens. Sans rapport d'ailleurs avec la présence des musulmans sur les lieux saints, on y allait avant qu'ils soient là, et pendant pas mal de temps, on pouvait y aller pendant qu'ils étaient là. Par exemple, on dispose du texte de l'itinéraire d'un pèlerin gaulois de Bordeaux à Jérusalem, qu'on date du premier tiers du IVe siècle. Alors, le pèlerinage, pour l'homme du Moyen-Âge, c'est un moyen de dévotion, d'ascèse, par le dépouillement matériel et social qu'il implique et l'abandon aux aléas de la route. Alors, beaucoup plus que nous aujourd'hui, quand on partons en pèlerinage en train, en avion, en bateau ou à pied, on sait qu'a priori, on va revenir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de danger. Autrefois, beaucoup plus. On faisait son testament avant de partir loin. Hein. Alors, ces grands pèlerinages sont encadrés par l'Église. Au départ, le pèlerin reçoit une bénédiction spéciale, avec le bâton, symbole de sa démarche et outil concret d'aide et de défense contre les embûches du chemin. Sa famille et ses biens sont placés sous protection de l'Église, il rédige son testament, il a un sauf-conduit pour être accueilli dans les communautés religieuses, il traverse des territoires, il s'embarque, les villes et les ports étant des lieux de passage obligés. Et la route reste très dangereuse, il y a des brigands, on peut souffrir de la faim ou de la soif, etc. Alors on fait des pèlerinages pour toutes sortes d'occasions et de raisons, des vœux, des demandes de guérison, de miracles, une pénitence. C'est une façon d'expier ses fautes et de faire son salut. Alors les pèlerinages locaux sont très florissants, d'autres rayonnent à l'échelle de toute la chrétienté comme Saint-Jacques de Compostelle, Sainte-Foy-de-Conques ou Rocamadour. Mais les plus importants, ça va être Rome et bien plus encore Jérusalem, même si évidemment tout l'Occident ne peut pas aller à Jérusalem. En 1033, on fête le millénaire de la mort du Christ et de sa résurrection. Et donc, à travers tout ce que je vous dis, je voudrais vous faire comprendre qu'une des causes des croisades aussi, c'est la ferveur religieuse collective qui existe en Occident à cette époque et dont la tradition du pèlerinage, parfois armé, lointain et dangereux, est un des signes. Et puis, l'aspect plus militaire même a quelques précédents avant les croisades elles-mêmes, en particulier en Espagne, où s'est déclenché, à la fin du XIe siècle, quelques années avant les croisades, le phénomène de la Reconquista, c'est-à-dire que les royaumes du nord de l'Espagne commencent à repousser les musulmans présents depuis le 8e siècle. Voilà le contexte en Orient et en Occident, et c'est donc dans ce contexte que va retentir l'appel du pape Urbain II, qui va donc faire écho à l'appel au secours des Byzantins. Donc la décision proprement dite est liée à cet appel. au concile de Clermont en 1095. Alors, quelques mots sur ce pape et sur cet appel. Ce pape, c'était Eudes de Châtillon, qui était né en 1042, qui avait été élève de Saint Bruno, qui fondera la Chartreuse, qui a été moine ensuite à Cluny à partir de 1077, et qui est devenu pape en 1088, poursuivant la politique entreprise par ses prédécesseurs, politique de réforme de l'Église et d'affranchissement de la tutelle laïque. Voilà, c'est un des premiers successeurs de Grégoire VII. Et donc, il est un de ceux qui tentent à assurer l'indépendance de l'Église vis-à-vis des laïcs. Il est diplomate et pragmatique, il préfère souvent la conciliation. Il s'y est essayé d'ailleurs en 1095 au concile de Plaisance avec l'Église d'Orient, puisque évidemment on essaie de mettre fin au schisme de 1054. Et puis il a aussi tenté de canaliser les violences des chevaliers occidentaux qui se livraient des guerres féodales que les phénomènes de la paix de Dieu ou des conciles de paix n'ont pas permis de complètement empêcher. Donc l'Église au Xe et XIe siècle, elle essaie de pacifier la société occidentale. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle va lancer un appel dans un sens qu'on pourrait interpréter comme opposé. Alors je vous lis un extrait du pape. « Que ceux qui étaient auparavant habitués à combattre méchamment, en guerre privée contre les fidèles, se battent contre les infidèles et mènent à une fin victorieuse la guerre qui aurait dû être commencée depuis longtemps déjà. » Que ceux qui ont été autrefois mercenaires pour des gages gagnent à présent les récompenses éternelles. Que ceux qui se sont épuisés au détriment à la fois de leur corps et de leur âme s'efforcent à présent pour une double récompense. Donc il y a bien l'idée de canaliser les hommes d'armes. Et puis, le musulman n'est-il pas l'ennemi commun que les deux églises, en Orient et en Occident, peuvent affronter ? Un ennemi, finalement, qui aiderait presque à ce que les Latins et les Grecs se réconcilient. Alors, le concile de Clermont, au cours duquel va être lancé l'appel à la croisade, c'est d'abord un concile disciplinaire, principalement dirigé contre le roi de France, Philippe Ier, excommunié pour simonie, donc pour trafic de biens ecclésiastiques. Je donne tel évêché, telle abbaye à tel de mes parents pour qu'il en récupère les bénéfices, voilà, ce n'est pas du tout autorisé. Et puis surtout, il a répudié sa femme Berthe de Hollande pour épouser Bertrade de Montfort. Vous voyez que ce pays, toujours des problèmes demeurent avec ses dirigeants. Et pour connaître le contenu de cet appel, on a diverses relations de chroniqueurs de l'époque. Fouché de Chartres, Robert Lemoine, Baudry d'Odol, Guibert de Nogent, Geoffroy de Vendôme, bon, il y a quelques versions différentes. Et puis on a des lettres adressées par le pape aux Flamands, aux Bolognais et aux Génois. Alors que disent toutes ces relations et ces documents ? Eh bien, elles manifestent, elles relaient les souffrances des chrétiens sous l'oppression musulmane. Les Turcs ont pris l'Asie mineure, Jérusalem, Antioche et menacent Constantinople. Les réfugiés décrivent les atrocités commises contre les prêtres, les femmes et les pèlerins. Je cite « Beaucoup de chrétiens sont tombés sous les coups des Turcs. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises et saccagent le royaume de Dieu. Aussi, je vous exhorte et supplie de vous rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste de nos territoires. » Donc il s'agit à la fois de secourir les chrétiens et de libérer les lieux saints, en particulier Jérusalem. Je cite à nouveau « Cette cité royale, située au milieu du monde, maintenant tenue captive par ses ennemis, est réduite en la servitude de nations ignorantes de la loi de Dieu. Elle vous demande donc et souhaite sa délivrance et ne cesse de vous implorer pour que vous veniez à son secours. » Il y a donc un appel qui est aussi un appel à la charité qui va beaucoup émouvoir son auditoire. Alors l'expédition aura un caractère méritoire. Depuis longtemps, les lieux saints attirent des foules de fidèles. C'est le pèlerinage comporte des vœux et sont assortis d'indulgences. Ceux qui partent le font pour le salut de leur âme, et s'ils viennent à mourir en chemin, la vie éternelle leur est assurée, mais ces pèlerins ne sont alors qu'accompagnés de militaires. Alors l'historienne Régine Pernoud a bien résumé les choses, et je vous la cite. C'est à ce moment du discours du pape qu'apparaît dans l'histoire de l'Église pour la première fois la promesse d'une indulgence. Le fidèle qui s'était confessé, qui avait par conséquent exprimé le regret de sa faute et en avait obtenu le pardon, s'engageait en même temps à accomplir une pénitence que le prêtre lui indiquait, proportionnée à l'étendue de sa faute, et c'est toujours une des conditions de l'absolution, ce que les théologiens nomment satisfaction, mais qui est devenu un peu moins spectaculaire. Au Moyen Âge, ces pénitences consistaient couramment en journées de jeûne prolongées parfois, même on allait jusqu'à imposer le pèlerinage en Terre Sainte. En proclamant l'indulgence, Urbain II offrait à ceux qui portaient la croix la remise totale des peines ainsi dues pour leurs péchés. C'est ça l'indulgence, hein ? La remise de peine. Donc liée à la satisfaction. Alors, Urbain II innove aussi. Les pèlerins qui partiront seront des pèlerins armés, des soldats de Dieu. Je cite encore, « Je le dis au présent, je le mande aux absents. Le Christ commande à tous ceux qui partiront là-bas, si sur le chemin ou sur la mer, soit en luttant contre les païens, ils viennent perdre la vie, une rémission immédiate de leurs péchés leur sera faite. » Et donc cet appel va s'adresser aux chevaliers aptes au combat. Et il leur donne rendez-vous le 15 août 1096 pour, je cite, « le voyage en Terre Sainte », on parle de voyage, placé sous la direction de l'évêque du Puy, Adhémar de Monteil, et ça va soulever un réel enthousiasme chez les barons. Et donc ils captent quelque chose qui bouillonnait dans cette société, un phénomène naissant, et il va imprimer à l'entreprise nouvelle la marque de l'Église, la marque du pape, qui va donner à la croisade ses caractères définitifs. Donc on voit bien ce qui s'est passé en Orient, en Occident, et l'appel du pape. C'est, la croisade, c'est aussi quelque chose qui est lié à la personne même du pape. Donc dès l'origine, on a une entreprise militaire sous la direction du pape, dans le but d'arracher les lieux saints à la domination musulmane, et ce sera là le plus petit dénominateur commun de toutes les croisades. Et pour se faire reconnaître, les combattants porteront une croix cousue sur leurs vêtements, et on prend donc sa croix. Voilà pour les causes. On va maintenant s'intéresser au déroulement de ces 8 croisades. Alors je ne vais pas les raconter une par une, parce qu'il y a des livres qui font ça très bien, et c'est infini, mais on va essayer un petit peu de les interpréter et de les classer, parce que elles sont successives, bien sûr, mais leur réalité est très différente de l'une à l'autre. Et c'est ça que je voudrais vous faire sentir. Alors on va s'intéresser d'abord aux 3 premières, et on va commencer par la plus importante, la première. L'appel de Clermont a eu un succès considérable, et dans les mois qui l'ont suivi, le pape en a encore étendu la portée en parcourant le royaume de France au sud de la Loire. Il a suscité un enthousiasme absolument intense en Languedoc et dans tout le Midi. Mais l'appel a été entendu bien au-delà des frontières du royaume de France, enfin des Francs à l'époque, dans l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, en Italie et jusqu'en Scandinavie même. Alors il y a quand même de grands absents. D'abord le roi de France, en délicatesse avec le Saint-Siège à l'époque. Le roi d'Angleterre, l'empereur, donc les 3 hommes les plus importants d'Occident, ne sont pas là. Mais on voit bien que c'est lié à la réforme grégorienne d'ailleurs. Mais si les chefs ne sont pas là, les seconds sont là. Par exemple, Hugues de Vermandois, frère du roi de France, qui va conduire la chevalerie d'Île-de-France. Ou bien Robert Courteheuse, duc de Normandie. Et puis le comte de Flandre, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, tous se croisent. Destiné a priori aux barons et aux chevaliers, l'appel du pape est également entendu dans le peuple. Et il y a là un rôle joué par des prédicateurs incontrôlés comme Pierre l'Ermite, qu'il faut souligner. Alors je vous lis un texte de Guillaume de Tyr sur Pierre l'Ermite. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre l'Ermite, mais vous allez faire connaissance. Sinon. Bien nous est dit que demain te taire venait pèlerin à Jérusalem. Entre les autres, il en vint un qui était du royaume de France, né de l'évêché d'Amiens, c'est-à-dire Pierre, qui avait été ermite en un bois. Pour ceux, l'appelait-on Pierre l'ermite. Il était petit homme de corps et assez comme chétif chose par semblant, mais merveille était de grand cœur et de clair esprit, et de bon entendement, et parlant très bien. Quand il vint à la porte de Jérusalem, donc il est venu en Terre Sainte avant tout ça, il paya l'impôt et rentra dans la cité. Donc on voit en plus les musulmans. Il ouït dire que le patriarche de la ville était grand prud'homme et bien religieux, Siméon avait nom. Or, pensa Pierre qu'il irait parler à lui et lui demanderait de l'état de l'Église, du clergé et du peuple. Le patriarche lui commença à compter tout à loisir tous les malaises de la chrétienté. Si ceux-ci, les Francs, voulaient avoir pitié de nous, qu'ils priassent notre Seigneur ou qu'ils prissent conseil de nous secourir, nous avons certaine espérance que Dieu nous aiderait par eux et leur enverrait sa grâce pour accomplir notre besogne. Car vous voyez bien que des Grecs et de l'Empire de Constantinople, qui sont nos voisins et comme nos parents, nous ne pouvons avoir ni aide ni conseil, car ils sont tout détruits et n'ont pouvoir de leur terre défendre. Et donc, voilà une première présentation de Pierre l'Ermite. Il s'est rendu sur place, il a entendu directement l'appel à l'aide, et il s'est fait le messager du patriarche qui lui a confié une lettre pour les grands hommes de la chrétienté occidentale. Et donc certains vont attribuer à Pierre l'Ermite, orateur d'exception, la paternité de la croisade. C'est quand même pas vrai. Mais il utilise les signes étranges qui se multiplient alors. Le chroniqueur Orderic Vital note ainsi deux éclipses de lune en 1095-96, une pluie d'étoiles un vendredi d'avril 1095, tandis que le chroniqueur Guibert de Nogent, bénédictin auteur de la geste de Dieu par les Francs, raconte que les auditeurs s'arrachent les poils de son âne pour en faire des reliques. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, Pierre l'Ermite. Et donc, quand il va lancer, relayer l'appel à la croisade, beaucoup de gens vont le suivre. Beaucoup de petites gens. Alors, des troupes qui sont constituées de bandes qui se constituent spontanément vont se mettre en route pour Jérusalem. On voit des paysans, des nobles peu fortunés. Et Guibert de Nogent décrit ces petites gens quittant leur humble demeure, qui font ferrer leurs bœufs, qui les attellent à des chariots qu'ils chargent de leurs biens et sur lesquels prennent place femmes et enfants. C'est fou. À l'approche de chaque ville, ils demandent si c'est là Jérusalem. Albert Dex, un autre chroniqueur, estime qu'il y avait là 40 000 personnes. Les historiens penchent plus pour une fourchette de 12 à 20 000 personnes, mais c'est quand même incroyable. En tout cas, cette croisade dite des pauvres gens part en avril 1096, c'est-à-dire bien avant les barons et bien avant les chevaliers, et sans se soucier encore du ravitaillement ni même de la date des moissons. Et ils vont commencer à partir vers l'est et à traverser l'Allemagne. Alors comme ils n'ont pas prévu spécialement l'intendance, ils vont vivre de pillage. Et comme les gens ne sont pas d'accord, ça va finir en massacre, y compris des massacres de juifs. Alors Régine Pernoud, dans un texte qui s'appelle « La paille mêlée au grain », a raconté un peu cela, pour essayer de comprendre comment des gens qui risquent leur vie pour aller libérer le tombeau du Christ, parmi eux se sont mêlés des personnes qui ont commis des atrocités. Alors je crois qu'elle l'explique bien. Au moment où la croisade populaire traversait l'Europe centrale, d'autres événements s'étaient déroulés en Allemagne que certains ont quelque peu mêlés à ceux qui marquèrent le passage des troupes de Pierre l'Ermite. On peut y voir l'envers de la croisade. Des chefs de bande, qui sont parfois des prêtres de réputation douteuse comme un nommé Gottschalk ou un autre Volkmar, soit des seigneurs brigands comme Emich de Leiningen, connu auparavant comme une sorte de hors-la-loi, rassemblent des partisans, mais avant de prendre la route, se livrent à d'abominables pogroms contre les juifs. Arrivé le 18 mai à Worms, le même Emich se livre à une attaque en règle contre le quartier juif, et là, plus de 500 sont massacrés malgré les protestations de l'évêque qui offrit refuge aux malheureux dans son palais dont Emich força les portes. Même scène à Mayence, une semaine plus tard, l'évêque Rotard rassemble les juifs dans son palais dont les portes sont closes et qui est attaqué par les mêmes bandes de gens sans aveu. Donc on voit bien qu'à la faveur de la croisade, ce phénomène incontrôlable, vous avez toutes sortes de gens tout à fait criminels qui se sont mêlés à tout le monde et qui ont profité du désordre pour commettre des crimes. Voilà. Le 5 juin 1096, la croisade des paysans va arriver aux portes de la Hongrie. On va se battre, il va y avoir beaucoup de morts. Et le duc Niketas, puisqu'on arrive bientôt aux portes de l'Empire byzantin, chargé de la garde des frontières byzantines, va même infliger des lourdes pertes à cette croisade. Pierre l'Ermite s'engage alors à mieux contrôler ses gens et à éviter tout séjour prolongé dans une ville. Et enfin, ils ont traversé l'Europe à pied, et ils arrivent sous les remparts de Constantinople. Alors, je vais d'abord vous lire un texte de Villehardouin qui raconte cette arrivée. Or, vous pouvez savoir que bien regardèrent Constantinople ceux qui onques ne l'avaient vue, car ils ne pouvaient penser que si riche ville pût être en tout le monde, quand ils virent ses hauts murs et ses riches tours dont elle était close tout entour à la ronde, et ses riches palais et des hautes églises dont il y avait tant, que nul ne l'eût pu croire s'il ne l'eût su avec l'œil, et la longueur et la largeur de la ville qui de toutes les autres était souveraine. Et sachez qu'il n'y eut si hardi à qui la chair ne frémit. Et ce ne fut pas merveille, car onque si grande affaire ne fut entreprise par si peu de gens depuis que le monde fut créé. Donc, un texte qui exprime, je crois, très bien cette vision extraordinaire de Constantinople découverte par les Occidentaux. Mais derrière les remparts, comment est-ce que les Byzantins regardent ces gens qui arrivent? Eh bien, on le sait aussi parce que la fille de l'empereur Alexis, Comnène, qui s'appelait Anne, évoque dans son Alexiade, un ouvrage dédié à la gloire de son père, cette croisade populaire. Alors elle est un peu moins éblouie. Elle ne voit dans ses hordes qu'une armée de sauterelles, laissant la désolation derrière elle, dont les chefs ne sont que des barbares grossiers, bavards, orgueilleux et cupides. Elle ne comprend pas la présence de ces femmes nombreuses, prostituées, aux côtés des hommes d'armes et encore moins celle des enfants. Elle ne comprend pas ces membres du clergé qui prennent part au combat l'épée à la main. Alors, vous voyez, l'impression d'avoir des barbares qui assiègent Constantinople. Et voici ce qu'elle écrit. C'était l'Occident tout entier, tout ce qu'il y avait de nations barbares habitant le pays situé entre l'autre rive de l'Adriatique et les colonnes d'Hercule. C'était tout cela qui émigrait en masse, cheminait par familles entières et marchait sur l'Asie, traversant l'Europe d'un bout à l'autre. Alors l'empereur Alexis essaie d'empêcher Pierre l'Ermite de franchir le Bosphore avant l'arrivée des troupes militaires, avant l'arrivée de la croisade des barons. Mais ils reprennent leur pillage. Et donc, pour s'en débarrasser, il leur fait traverser le Bosphore le 7 août 1096. Et donc, ils vont s'installer près d'un fort à Kivitot, à la frontière des terres musulmanes, où ils restent jusqu'à la mi-septembre. Et alors après, ils n'y tiennent plus, et ils vont se lancer à l'assaut de Nicée, tenu donc par les Turcs. Et ils se font complètement massacrer le 21 octobre 1096. L'année suivante, Fouché de Chartres rapportera avoir vu des amoncellements d'ossements blanchis au soleil. Il n'est pas resté grand monde de tous ces pauvres gens-là. Pendant ce temps-là, la croisade des barons s'est mise en place. À la fin de l'été 1096, quatre armées ont pris le chemin de l'Orient et le nombre des combattants est tel que pour des raisons de ravitaillement, on préfère emprunter des chemins différents. Combien sont-ils? La fourchette basse, c'est 30 000, la fourchette haute, c'est 140 000. En tout cas, une masse d'hommes considérable au XIe siècle. Alors, il y a quatre routes. Godefroy de Bouillon prend une voie terrestre par l'Allemagne, la Hongrie et l'Empire byzantin. Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, franchit les Alpes, descend la vallée du Pô et traverse les Balkans. Hugues de Vermandois et le contingent français vont à pied, par voie de terre jusqu'à Brindisi, puis ils comptent traverser l'Adriatique. Et ils sont suivis par le duc de Normandie et le comte de Blois. Et les Normands de Sicile retiennent également cette solution. Normands qui se sont installés là dans la première moitié du XIe siècle, après avoir chassé les Byzantins et les musulmans. Ils y ont d'ailleurs construit un état puissant et ont adapté la féodalité aux traditions locales. En tout cas, le rendez-vous est fixé à Constantinople et l'arrivée des contingents s'échelonne donc de l'automne 1096 au printemps 1097. Alors, les Byzantins sont très méfiants. Ils gardent un mauvais souvenir de la récente croisade populaire. Ils font un fort complexe de supériorité. Et ils ne veulent voir dans les armées croisées qu'une masse barbare tout juste bonne à servir les desseins de l'empereur. Et donc, les relations entre Francs et Byzantins sont faites de duplicité et de méfiance réciproque. Alors, je vais vous lire un passage qui montre la tension extrême. Un texte cité par Régine Pernoud. Quand tous furent réunis, y compris Godefroy lui-même, et que le serment eut été prêté par chaque comte, on les a obligés à prêter serment au Basileus, à l'empereur byzantin, un noble eut l'audace de s'asseoir sur le siège du Basileus, siège de l'empereur. Le basileus le souffrit sans mot dire, car il connaissait depuis longtemps la nature arrogante des Latins. Mais le comte Baudouin intervint, prit l'autre par la main et l'en fit lever avec de vifs reproches. Tu ne devrais pas, dit-il, agir de cette manière, d'autant que tu viens de promettre vassalité au basileus. Ce n'est pas en effet la coutume des Basileï des Romains, en temps des Byzantins, puisque ceux-ci se considéraient comme les descendants de la puissance romaine, de laisser leurs sujets s'asseoir en même temps qu'eux. Ceux qui sont devenus les vassaux de Sa Majesté doivent observer aussi les usages du pays. L'homme ne répondit rien à Baudouin, mais lança un regard furieux au Basileus et à part lui murmura quelques mots dans sa langue. « Voyez, dit-il, quel rustre. Il s'assied seul quand de si valeureux capitaines se tiennent debout près de lui. » Le mouvement des lèvres du latin n'échappa pas au Basileus, qui appela un de ses interprètes de langue latine et lui demanda le sens de ses paroles. Ayant appris ce que le latin avait dit, il ne lui fit pour l'instant aucune réflexion, sans l'attention. Quand tous prenaient congé de lui, le Basileus appela l'orgueilleux et impudent latin et lui demanda qui il était, de quel pays, de quel lignage. « Je suis un pur franc, répondit l'autre, et de la noblesse. Je sais une chose, c'est que, à un carrefour du pays où je suis né, il y a un sanctuaire élevé de longue date où quiconque veut livrer un combat singulier vient se poster dans ce but, et là il demande à Dieu son aide, tandis qu'il attend sur place l'homme qui osera le défier. À ce carrefour, je suis resté longtemps sans rien faire à attendre un antagoniste. Mais l'homme assez audacieux pour cela n'est jamais venu. À ces mots, le Basileus répliqua « Si tu as cherché à combattre sans pouvoir en trouver l'occasion, tu vas être comblé. » Donc on sent bien l'attention, je trouvais que ce texte allait l'exprimer très bien. Alors les Byzantins attendaient des mercenaires, mais ils n'ont pas vraiment compris l'esprit de la croisade qui s'empare des chrétiens d'Occident à la fin du XIe siècle. Donc Alexis Comnène fait jurer au chef franc qui lui restituerait les villes qu'il réussirait à reprendre aux Turcs, et après cela, ils font passer les croisés de l'autre côté du Bosphore. Passés en Asie, ils mettent le siège devant Nicée, que cette fois-ci, ils vont prendre le 26 juin 97. Donc là, on entre dans la phase vraiment militaire. Le 1er juillet 97, à Dorylé, les Francs écrasent l'armée turque. Ils traversent le désert de Phrygie, mais la plupart de leurs chevaux succombent. Ils prennent Iconium le 15 août. Le 10 septembre, ils remportent une victoire à Héraclée, donc ils progressent irrésistiblement. Une branche de l'armée occupe la Cilicie, au sud de l'Asie mineure, tandis que l'autre prend Césarée et assiège Antioche. C'est alors que les ambitions personnelles des chefs croisés commencent à se faire jour. Tancrède, Baudouin de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon en particulier, ont des velléités de conquête qui ne correspondent pas tout à fait à ce pourquoi ils étaient peut-être partis. En tout cas, le grand épisode, c'est le siège d'Antioche, du 20 octobre 97 au 3 juin 98. Donc les Turcs sont assiégés dans la ville que les croisés vont prendre grâce à une trahison juste avant l'arrivée d'une puissante armée musulmane de secours. Et donc, deux jours après qu'ils aient pris la ville, le 5 juin, les Francs sont eux-mêmes assiégés dans la ville. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour fêter leur victoire. Ils ont peu d'espoir d'être secourus. Alors, le 14 juin, il y a tout un émoi qui est causé par la découverte d'une insigne relique, la Sainte Lance. Les croisés reprennent espoir et le 28 juin, la seule solution quand on est assiégé et qu'on peut espérer aucun secours, c'est de sortir. Et donc, ils font une sortie massive qui met en déroute les musulmans et sauve la croisade. Et l'armée va ensuite se disloquer au gré des ambitions personnelles. Baudouin de Boulogne fonde le comté d'Édesse. Bohémond de Tarente devient le maître d'Antioche, ils ont repris donc. Raymond de Saint-Gilles convoite quant à lui à Pamée. Et on est en train de se dire, mais c'est pas fini. Pourtant, on a l'impression qu'on a oublié d'aller délivrer Jérusalem. Et en janvier 1099, après une émeute dans la troupe qui refuse de renier son vœu de délivrer Jérusalem, c'est donc les hommes, les chefs croisés doivent promettre de reprendre la route. Début juin, ils occupent ainsi Bethléem. Le 7 juin 99 débute le siège de Jérusalem et la ville est prise le 15 juillet 1099. Et cette prise se solde, comme pour toute ville prise, par des massacres. Parce que la logique, c'est soit vous négociez votre reddition et vous avez la vie sauve. Vous avez la vie sauve parce que vous avez aussi permis à votre assiégeant de ne pas perdre trop de vie et de combattants en essayant de s'emparer des murs que vous occupez. Soit vous refusez de vous rendre, et auquel cas c'est un combat à mort, c'est la règle. Alors, évidemment, ça nous heurte. Il y a de quoi. Alors, le 12 août 1099, les croisés écrasent l'armée égyptienne à Ascalon, et cette dernière victoire marque la conclusion symbolique de la première croisade, parce que désormais, les musulmans ne vont pas essayer d'y revenir. Le but de l'expédition est donc atteint. Urbain II meurt quelques semaines après la prise de Jérusalem. Il n'a sans doute pas appris la nouvelle d'ailleurs. Mais une fois que Jérusalem est délivrée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut songer avant tout à défendre les conquêtes réalisées par les croisés. Et parmi les survivants d'une telle expédition, beaucoup, une fois accomplis leurs vœux, ne songent plus qu'à rentrer chez eux. Et donc, la grave pénurie d'effectifs est en partie compensée par l'arrivée de nouveaux croisés qui va permettre de faire face aux musulmans. On va donc créer des États, les fameux États latins, gouvernés par les croisés. Alors, on n'y avait pas pensé à l'origine de la croisade, pas du tout. Si tel baron aspirait à trouver un établissement en Orient, ce ne pouvait être que dans le cadre de l'Empire byzantin. Mais simplement, ces territoires, on ne les a pas donnés aux Byzantins, on les a gardés. L'empereur Alexis avait rappelé ses droits aux chefs de la croisade. Pourtant, loin de transférer donc leurs conquêtes aux Byzantins, il les organise selon le système féodal de l'Europe occidentale. C'est ainsi que Godefroy de Bouillon prend le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Refusant de porter une couronne d'or, il ne veut pas être appelé roi de Jérusalem, hein, là où le Christ avait porté une couronne d'épines, dit-il. Mais il meurt dès 1100, et son frère Baudouin de Boulogne prendra le titre de roi de Jérusalem, n'ayant pas les mêmes scrupules que le défunt. On fonde aussi une principauté d'Antioche, un comté de Tripoli et un comté d'Édesse. C'est donc les quatre États latins de Jérusalem. Ces États sont indépendants les uns des autres, ils reconnaissent la suprématie du roi de Jérusalem. Et les dynasties qui vont les gouverner sont d'origine latine, hein, des Ardennes-Boulogne, puis des Anjou à Jérusalem, des Normands, puis des Poitevins à Antioche, des gens de Rethel et de Courtenay à Édesse, et des gens de la famille du comte de Toulouse à Tripoli. Alors le statut d'église établi est reconnu à l'église latine qui installe sa hiérarchie épiscopale, chaque église orientale conservant sa propre hiérarchie. Et donc, on va organiser la conquête sur le modèle féodal européen avec des seigneuries. Les Francs s'installent dans le décor oriental. Ils développent une architecture militaire dont le krach des chevaliers est la plus belle réalisation. Et puis on va fonder des ordres militaires, des ordres monastiques militaires, les hospitaliers en 1113 et les templiers en 1118, pour accueillir et soigner les pèlerins et pour défendre les lieux saints. On fondera les chevaliers teutoniques un peu plus tard. En face, les musulmans sont profondément divisés entre Turcs et Égyptiens et sont tout à fait incapables de réagir pour le moment. Notons qu'en 1143, Pierre le Vénérable, hein, abbé de Cluny, fait traduire le Coran et envoie un exemplaire à Saint Bernard, ce qui montre qu'on s'intéresse aussi à la pensée musulmane, ce qui montre qu'on les connaît pas bien en fait. Voilà pour la première croisade, je crois qu'il faut la raconter. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, j'ai assisté beaucoup sur les circonstances, même les plus triviales, pour montrer que c'est une aventure spirituelle, mais aussi une aventure humaine, avec ses moments glorieux, ses moments moins beaux, n'est-ce pas? Hein, tout à fait affreux. Voilà. N'idéalisons rien, disons ce que c'était, c'est tout. Alors, ça c'est la première, c'est la croisade modèle, c'est le pèlerinage armé pour délivrer Jérusalem et qui a abouti. La troisième croisade, je vais le plus vite maintenant, puisque maintenant qu'on a le modèle, on va voir comment se passent les suivantes. Les deux suivantes sont des croisades d'obligation. Il faut défendre les États latins qui commencent à être attaqués par les musulmans. Et un noble bien-né, et surtout un prince, se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie le saint voyage de Jérusalem. On dit toujours le saint voyage. En 1144, les musulmans prennent Édesse, et donc les États latins se sentent mis en danger, et saint Bernard prêche la croisade à Vézelay en 1147. Cette fois-ci, l'empereur Conrad III, le roi de France Louis VII s'y rendent, mais leur mésentente précipite leur échec. La troisième croisade a lieu plus de 40 ans après, en 1190-91. En 1187, Jérusalem a été prise par le Kurde Salah ad-Din, qui triomphe des croisés à la bataille de Hattin, aux cornes de Hattin. L'empereur Frédéric Barberousse, qui fait partie de la croisade qui a été prêchée après la prise de Jérusalem, se noie dans un fleuve en Cilicie, sur le chemin de la croisade. Le roi Philippe Auguste, qui faisait partie de l'expédition, participe avec Richard Cœur de Lion à la prise de Saint-Jean-d'Acre, mais après il se rembarque avant même qu'on prenne le chemin de Jérusalem, et en laissant même quelques conseils à ses chevaliers de ne pas trop en faire. Finalement, Richard Cœur de Lion signera un traité avec Saladin qui va permettre la reconquête de Saint-Jean-d'Acre, la naissance d'un second royaume de Jérusalem, mais sans la ville de Jérusalem elle-même. Un peu particulier, on a un royaume de Jérusalem sans Jérusalem. Et du moins, les pèlerinages peuvent-ils reprendre? Mais la croisade la plus célèbre, en dehors de la première, c'est, au moins pour les orthodoxes, c'est la quatrième, entre 1202 et 1204. Parce que c'est peut-être la pire. Parce que c'est une croisade détournée. Vous savez qu'on essaie à nouveau de repartir vers la Terre Sainte pour délivrer Jérusalem, que ce sont les Vénitiens qui assurent le transport des troupes, et que pour se faire payer, ils demandent aux croisés de piller un certain nombre de villes sur le chemin, la ville de Zara d'abord, en Dalmatie, et puis surtout Constantinople. Alors, je vous ai décrit Constantinople par les mots de Villehardouin tout à l'heure, quelque chose d'impensable. Et donc, les croisés prennent la ville, la pillent ses richesses et ses reliques. On les décrit à cheval dans Sainte-Sophie, dans un ruisseau de sang qui atteignait le poitrail de leurs chevaux. Alors, c'est de l'hyperbole, mais bon, on a compris quand même que ça ne s'est pas fait dans la tendresse. Avec des horreurs, on dit qu'on a contraint des femmes nues à danser sur l'autel de Sainte-Sophie, etc. Donc ça, c'est vraiment une cause de colère chez certains orthodoxes, encore plus grave que le schisme de 1054, on a l'impression. Mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier, c'est abominable. D'ailleurs, le pape Innocent III dénoncera ceux qui ont fait ça. Le seul bienfait qu'on ait retiré finalement du saccage de Constantinople, ça, c'est pas bien ce que je vais dire, c'est qu'on en a rapporté le linceul qui est aujourd'hui à Turin. Voilà. Il y a un chevalier français qui l'a piqué à ce moment-là. Voilà. Alors, le patriarche de Constantinople réclamera la relique, hein, bien sûr. Les quatre dernières croisades, je les survole rapidement. La cinquième a eu lieu en 1218-1219, demandée par Innocent III, puis par Honorius III. Innocent III, c'est vraiment peut-être le plus grand pape du Moyen-Âge. Hein. Alors, cette fois-ci, on va vers l'Égypte, puisque le centre de gravité du monde musulman est passé en Égypte. On prend Damiette et, à l'opposé de ce que je viens de raconter à propos de la quatrième croisade, eh bien, c'est au cours de cette croisade que saint François d'Assise a tenté de convertir le sultan qui s'est rendu auprès de lui, qu'il a échangé longtemps. Donc on a un épisode qui est assez remarquable en fait. La sixième croisade, en 1228-29, c'est la plus étrange de toutes, peut-être. Elle a été entreprise par l'empereur Frédéric II Hohenstaufen, alors même qu'il était encore une fois excommunié. Elle a été excommuniée au moins trois fois, lui. Elle aboutit pourtant à des résultats substantiels sans recours aux armes, puisque par la négociation, Frédéric II obtient la restitution de Jérusalem, de Bethléem et de Nazareth, moyennant une sorte de condominium religieux avec les musulmans. Et puis, il y a les deux dernières croisades, qui sont marquées par la personnalité de Saint-Louis, qui, lui, va faire revivre l'idéal des premiers croisés. En 1244, en effet, les musulmans ont repris Jérusalem, donc une expédition par d'Aigues-Mortes. Hein. Et c'est au cours de la bataille de la Mansoura, donc au cours de la 7e croisade, de 1248 à 1254, que le roi est fait captif, que ses troupes sont décimées par la peste, qu'il doit payer une rançon, qu'il passe plusieurs années loin du royaume, et que l'on perd Damiette. Donc, si l'idéal de la croisade a été ressuscité, les résultats ont été... il n'y a pas eu de résultat. En 1251, il y a un phénomène géopolitique intéressant qui se produit. Les Mongols déferlent en effet sur le Proche-Orient et on espère un temps les convertir au christianisme, ce qui permettrait de prendre le monde musulman en tenaille. Mais en 1260, les Turcs écrasent et même Mongols, et donc tout espoir de l'encerclement des Turcs est désormais anéanti. La huitième croisade a lieu en 1270 et s'achève à peine après avoir commencé, puisque le roi Saint-Louis meurt à Tunis et son corps est rapatrié, etc. Donc voilà ces huit croisades, et vous voyez que on a des réalités finalement assez différentes les unes des autres. Hein, il y a bien sûr la délivrance du tombeau du Christ, mais après il y a la nécessité de sauvegarder les États latins qui sont le cadre de la protection de Jérusalem et des lieux saints. Et puis après, il y a la terrible quatrième croisade, qui n'en est pas une, bien sûr, en fait. Et puis la cinquième et la sixième, là, voilà, des belles figures comme Saint François ou Saint Louis. Mais il y a quelque chose qui est cassé, il n'y aura plus rien après Saint Louis. Alors, quelles sont les conséquences de ces croisades? Une vingtaine d'années après la mort de Saint Louis, les Latins perdent Saint Jean d'Acre, c'est-à-dire qu'ils perdent leur dernière possession en Terre Sainte. Ils ont donc définitivement perdu la partie. Pourquoi? L'explication est d'abord à chercher en Occident. Les transformations de la société rendent de plus en plus difficile le départ de ces énormes expéditions. Le cœur y est peut-être moins aussi. Et puis surtout, il y a une contre-croisade musulmane qui a été absolument puissante et qui va, dans l'histoire des flux et de reflux que j'évoquais tout à l'heure, marquer l'histoire de l'Europe de manière indélébile. Vous avez d'abord une contre-croisade égyptienne, puis ottomane. Hein, on a vu de grandes figures comme Saladin. Alors, après avoir chassé les Latins, les musulmans ont eu du mal à liquider les derniers États chrétiens qui subsistaient dans la région. La petite Arménie en 1375, Rhodes en 1522, qui est prise par les Ottomans, et Chypre en 1570, également prise par les Ottomans. Chassés de Rhodes, les hospitaliers reçoivent de Charles Quint l'île de Malte, où ils s'établissent et où ils sont toujours sous le nom d'Ordre de Malte. Et en Europe, dans ce mouvement d'expansion, les Ottomans vont prendre pied, triompher assez facilement des chefs locaux. Alors en 1389, par exemple, a lieu la bataille de Kosovo, hein, la bataille du Champ des Merles, perdue par les Serbes, qui est une catastrophe fondatrice du sentiment national serbe. En 1396, les Turcs remportent une victoire à Nicopolis. Ils font d'ailleurs prisonnier le futur duc de Bourgogne, Jean sans Peur, à ce moment-là. En 1444, ils remportent une victoire à Varna sur la mer Noire. Et les croisés qui leur font face ne songent plus à délivrer Jérusalem, mais à sauver Constantinople, en fait. Puisque petit à petit, les Ottomans grignotent le territoire et assiègent inexorablement Constantinople. Et finalement, ils vont même prendre la ville le 29 mai 1453, et là encore, ça se termine très mal ensuite, dans un bain de sang, pour ceux qui étaient restés dans la ville. Mais l'offensive ne va pas s'arrêter là, elle continue avec Soliman le Magnifique, entre 1520 et 1566, qui a donc pris Rhodes, et puis qui va prendre Budapest en 1526, qui va assiéger Vienne en 1529, en vain. Et c'est dans ce contexte qu'il faut resituer la victoire chrétienne de Lépante, au large de la Grèce, en 1571. Lépante, c'est le coup d'arrêt à l'expansion musulmane en Europe. Et donc la frontière civilisationnelle et religieuse, désormais entre christianisme et islam, est en plein cœur de l'Europe, en plein cœur de l'Autriche même, et les Ottomans reviendront d'ailleurs à siéger Vienne en 1683. Alors voilà, les croisades, je crois que ça se raconte d'abord, hein. Donc j'espère que ça s'est bien imprimé et que ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus voir dans le détail. Mais quelques mots maintenant sur ce qui est en jeu. On nous dit souvent que la croisade est une opération militaire violente. On ampute la réalité parce que c'est d'abord un pèlerinage, comme je l'ai dit. C'est un pèlerinage armée. Et dans le contexte qui est celui de l'occupation de Jérusalem, du danger de la route et de l'impossibilité d'aller faire son pèlerinage, on comprend qu'on soit armé. Est-ce que c'est un exutoire pour une noblesse en mal d'action? On l'a dit aussi, et on a entendu Urbain II se sermonner les chevaliers occidentaux pour canaliser leur violence. Bien sûr que c'est la noblesse qui est appelée à la croisade, mais elle est appelée avant tout à une démarche spirituelle. Il y a une vraie foi des croisés, même si les chefs ne donnent pas toujours l'exemple. J'aime bien rappeler l'épisode du début de 1099, quand les soldats disent: quand est-ce qu'on va prendre Jérusalem? On n'est quand même pas venu pour fonder des royaumes. Est-ce que y a aussi des réflexions sur faire la croisade, ça vous envoie directement au paradis? J'essayais de vous dire que ce n'était pas si simple. J'essayais surtout de vous dire que ces croisades, elles s'inscrivent avant tout dans une longue tradition pénitentielle chrétienne. Partir en croisade, c'est d'abord risquer de ne jamais revenir, et beaucoup ne sont pas revenus. Hein? Quand vous faites des prisonniers, hein, on fait le tri entre ceux qui peuvent payer une rançon et les autres. Hein? Et les autres, on les tue. On en fait des esclaves. Est-ce que c'est une entreprise destinée à satisfaire les ambitions pontificales? Le pape, à l'époque, est le fer de lance pour affirmer l'indépendance de l'Église par rapport au pouvoir temporel. Hein, au Xe siècle, on décrit l'Église comme étant aux mains des laïcs. C'est le titre des manuels d'histoire de l'Église pour cette période. Ça veut dire quoi, aux mains des laïcs? Ça veut dire que les princes, les rois, les seigneurs contrôlent les nominations aux évêchés, aux abbayes, aux bénéfices en fait, parce que justement il y a des bénéfices à faire et donc on ne respecte plus du tout le mode de fonctionnement propre qui est celui de l'Église. Déjà, dès le début du Xe siècle, quand on a fondé l'ordre de Cluny, il a été fondé avec une exemption par rapport, même par rapport à l'ordinaire, par rapport à l'évêque du lieu, parce que l'évêque du lieu était souvent apparenté au seigneur, et ce qui les intéressait souvent, c'était peut-être de piocher, de confondre un petit peu leur bourse et la bourse de l'abbaye ou de l'évêché. Alors, est-ce qu'on en est à une entreprise destinée à satisfaire les ambitions pontificales? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le pape ait tiré un surcroît de prestige de l'épisode des croisades. Ce sont d'abord, je crois, des chevaliers ou des souverains qui ont pu éventuellement tirer du prestige. Mais le pape n'avait pas besoin de ça et il n'a pas attendu les croisades pour réaffirmer son pouvoir par rapport à l'empereur du Saint-Empire Henri IV ou Frédéric Ier Barberousse ou Frédéric de Hohenstaufen ou roi de France ou roi d'Angleterre. Hein? La violence des croisés disqualifie-t-elle leur entreprise? Ça se discute, évidemment. Il y a des actes de violence impardonnables, si vous lisez le détail. Il y a des actes de bravoure. Voilà, c'est la guerre, hein. Je crois qu'il faut éviter aussi l'idée d'un conflit de civilisation. On n'est pas allé là-bas pour détruire l'islam avant tout, même si je vous ai lu un texte d'un Byzantin du Xe siècle. Mais on est allé d'abord là pour libérer le tombeau du Christ. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a eu des oppositions contemporaines à la croisade très importantes qui sont étudiées aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens d'Occident qui trouvaient que c'était une mauvaise idée, en fait, que d'y aller, qu'il y avait peut-être un autre moyen, par la négociation, de délivrer le tombeau du Christ. Voilà. Donc la réalité de la croisade, c'est une réalité complexe, nuancée, mais elle ne doit pas servir de prétexte pour dire que toute violence est illégitime, y compris de la part de chrétiens, y compris pour une cause religieuse. Il y a des cas, et il y aura toujours des cas, où il est légitime de prendre les armes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que tout soit permis non plus. Donc vous voyez, il faut avoir un regard nuancé sur les croisades, voir ce qui est bon, voir les abus qui ont été commis et savoir les dénoncer aussi, comme certains ont pu le faire à l'époque. Alors je laisse la parole à la fin pour à Zoé Oldenbourg, pour essayer un peu de prendre du recul par rapport à tout ça. Ni migration de peuple, ni guerre de conquête entreprise par un souverain ambitieux, l'aventure de la première croisade reste sans parallèle dans l'histoire. Parce que, tout en étant une guerre véritable, elle ne semble pas avoir été commandée par aucun des impératifs qui d'habitude provoquent les guerres. on ne peut la comparer à la foudroyante expansion de l'islam au 7e siècle. Infiniment plus modeste dans ses dimensions comme dans ses objectifs, le phénomène de la croisade avait ceci de singulier, que pour une fois, une guerre sainte était menée d'une façon, en apparence, désintéressée. Et donc je crois qu'ultimement, pour comprendre ce phénomène, il faut simplement comprendre que les chevaliers du 11e et du 12e siècle étaient des chevaliers chrétiens qui ont réagi dans le domaine qui était le leur, la chevalerie, le service militaire, au service de la libération du tombeau du Christ. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé.